Chapitre 74. Jane emprunta l'Interstate 15 en direction du nord jusqu'à Barstow et pénétra dans un désert de sable, de rochers vieux de millions d'années et de yucca évocateurs des totems épineux associés à une race d'humanoïdes éteinte depuis longtemps. Elle bifurqua vers l'est en prenant l'I-40, accompagnée par des nuées côtières qui s'effilochaient au contact du ciel bleu, dans un air si transparent que le soleil de ce samedi paraissait blanc et non jaune. Une grande distance séparait Jane de Haut-Fourneau-le-Lac, mais les logiciels de reconnaissance faciale installés dans les aéroports et les gares rendaient trop périlleux tout déplacement en avion ou par le train. Avoir coupé court ses cheveux l'autorisait à porter une perruque châtain plus longue, ses yeux bleus étaient devenus verts grâce à des lentilles de contact, et elle avait opté pour un maquillage dont elle se passait en temps ordinaire. Cela ne suffirait pourtant jamais à tromper les logiciels de reconnaissance faciale, qui l'identifieraient immédiatement grâce à la forme de son visage. Jessica lui avait fourni un thermos de café bien noir, ainsi que des barres énergétiques aux fruits et au miel, et un détecteur de radar lui permettait de rouler plus vite que la limite autorisée. Décidée à gagner Flagstaff en Arizona en moins de 9 heures, elle traversa le désert des Moraves jusqu'au fleuve Colorado. Elle pénétra en Arizona au milieu d'un paysage de sauge et d'agave, guidée par une carte et son expérience. Puis elle s'arrêta dans une station-service de Kingman pour faire le plein et aller aux toilettes. Pour passer le temps et garder le moral, elle écouta Benny Goodman, Artie Shaw et Teddy Wilson, sans doute le meilleur pianiste de l'époque swing. Plus elle s'éloignait de son fils, moins le rythme des big bands venait en soutien de son humeur. La terre aride, asséchée par 10 millénaires de chaleur implacable à la suite de cataclysmes volcaniques et tectoniques, l'incita à écouter le Bob Dylan de la première moitié de sa carrière. Après avoir gagné 1 heure sur sa montre en quittant la zone pacifique pour entrer dans celle des Rocheuses, elle arriva à Flagstaff à 16h05, conformément à son planning. Les étapes de 9 heures sont généralement considérées comme suffisantes, mais quiconque a entrepris la traversée des États-Unis en voiture sait qu'il est préférable de rouler le plus longtemps possible le premier jour, avant de prendre la pleine mesure de l'immensité d'une telle entreprise. Elle décida donc de poursuivre sa route jusqu'à Albuquerque, 500 km plus loin, afin de s'arrêter pour la nuit, ou tout au moins de parcourir les 300 km qui la séparaient de Gallup si la fatigue se faisait trop sentir. On dit souvent que l'homme propose et que Dieu dispose, mais ce qui la retarda ce jour-là n'avait rien à voir avec le divin. Alors qu'elle avait vidé le thermos et racheté du café à Kingman, Jane n'avait avalé qu'une seule de ses barres énergétiques. Elle n'aimait que modérément le goût du sucre, alors qu'elle dévorait sans peine les protéines. Quittant l'autoroute, elle fit halte dans un relais routier plus imposant que bien des bourgades et commença par remplir le réservoir avant de se rendre au restaurant. Les habitués du volant adaptent leurs horaires à leurs besoins. Mais 16h15 pouvait sembler tôt pour dîner, même aux yeux de ceux qui comptent les kilomètres davantage que les minutes. Comme il y avait à peine 30 clients dans un espace susceptible d'en accueillir 6 fois plus, Jane s'installa dans un box donnant sur le parking. Une serveuse pleine d'entrain lui apporta un menu et elle commanda un verre de lait en prévision des cachets contre l'acidité gastrique qu'elle allait avaler. La serveuse s'éloigna en lui promettant de revenir « en 5 secs » et elle étudia le menu tout en surveillant du coin de l'œil 3 types attablés un peu plus loin. Ils buvaient des Corona avec un quartier de citron vert en se partageant des chips de maïs recouvertes de fromage fondu. Tous proches de la trentaine, ils portaient des bottes de cow-boy, un jean noir délavé pour l'un et un jean ordinaire dans le cas des 2 autres. Le premier avait le crâne lisse et une boucle d'oreille, le deuxième les tempes rasées et une touffe de cheveux sur le haut du crâne, une pointe de barbe entre la lèvre inférieure et le menton. Quant au troisième, propre comme un sous-neuf, il avait un look digne des séries télévisées des années 50, au point qu'on aurait pu le prendre pour un enfant de cœur. Il parlait sur un ton feutré et riait bruyamment avec un mépris particulièrement évident lorsque leur regard se posait sur Jane. Rassurée de constater qu'il s'intéressait uniquement à sa plastique, elle comprit qu'il n'avait pas fait le lien entre elle et la fugitive dont le portrait passait sur toutes les télés du pays. Lorsque la serveuse lui apporta son lait, Jane lui commanda un steak de 250 grammes et du poulet rôti sur la même assiette, le tout servi sans pommes de terre avec double ration de légumes.
« À vous voir, jamais vous n'avalerez tout ça !» s'étonna la serveuse.
« Vous serez surprise !» Elle arrosa son médicament d'une longue gorgée de lait et reposa le verre devant elle tout en surveillant les trois types. L'homme au crâne rasé ne la quittait pas des yeux, le portable collé à l'oreille. Il s'empressa de se concentrer sur sa bière en s'apercevant qu'elle avait surpris son manège. Il mit fin à sa conversation téléphonique quelques instants plus tard et porta le goulot de la bouteille à ses lèvres. Ce coup de téléphone pouvait-il concerner Jane? Sans doute pas, car elle était méconnaissable. La paranoïa est un moyen de survie efficace, mais c'est aussi un moteur de déraison et de panique. Le type téléphonait à un copain, rien de plus. La serveuse revint avec le repas de Jane.
« Je parie que vous avez grandi dans une ferme, comme moi. »
C'est souvent ce qu'on me dit. Depuis quelque temps, elle maniait le couteau et la fourchette avec l'efficacité redoutable de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Tout en mastiquant, elle continuait d'observer le trio. Les types avaient reporté leur intérêt sur un couple installé à une autre table, ou plutôt sur la jolie brune qui formait la moitié du couple. Deux femmes et deux petites filles étaient attablées un peu plus loin. La plus âgée devait avoir dans les 50 ans, sa compagne en avait 20 de moins, toutes deux étaient jolies et se ressemblaient assez pour être la mère et la fille. Les deux plus jeunes, 9 et 11 ans, étaient à la fois vives et bien élevées. Jane crut remarquer que le rire des trois types était plus nerveux et plus inquiétant chaque fois qu'ils s'intéressaient à la table de quatre. Penchés les uns vers les autres, ils multipliaient à voix basse les commentaires mystérieux. Elle n'aurait pas su dire pourquoi, mais son intuition lui dictait que ces types étaient mal intentionnés. Un courant électrique au niveau de sa colonne vertébrale fit résonner une voix dans sa tête. « Toi qui es flic, fais bien attention, tu as reconnu la signature du mâle ici-bas. »